Bonjour Monseigneur Bouvet.
Bonjour Anne-Rose.
En cette veille de l'Ascension, nous prenons quelques nouvelles du diocèse. La grande joie cette semaine dans notre diocèse, eh bien, c'est l'ordination diaconale du frère François-Xavier, frère des Fraternités Apostoliques de Jérusalem, qui sera ordonné diacre demain, diacre en vue du sacerdoce. Première question, toute simple, quelle est au fond la différence entre un diacre ordonné pour le diaconat permanent et un diacre ordonné en vue du sacerdoce? Est-ce que pour vous, ça change quelque chose?
Ben oui, parce qu'il y en a un qui va rester diacre toute sa vie, et puis l'autre qui va devenir prêtre dans un an, à peu près, quoi. Et donc, celui qui reste diacre permanent, il va garder ce ministère de diacre, alors que l'autre, bon, va devenir prêtre. Mais je crois que dans votre question, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est de constater que tous les prêtres sont d'abord ordonnés diacres, de même que les évêques. Hein. Donc ça veut dire que le diacre, c'est le diakonos en grec, ça veut dire le serviteur. Mm-hmm. Et c'est celui qui vraiment accepte cette mission d'être consacré à la suite du Christ serviteur, le Christ au service de l'humanité. Et donc, lorsque nous sommes ordonnés diacres, notre vie prend, c'est comme si elle prenait la forme d'un service. C'est comme si on nous disait, bon, écoute, même si tu vas être ensuite pasteur dans l'Église, et donc conduire le troupeau dans l'Esprit Saint, mm-hmm. il faut d'abord que tu comprennes que ta vie est d'abord un service.
Et c'est ce à quoi s'engage le diacre, c'est ce à quoi va s'engager frère François-Xavier demain, c'est servir l'Église.
Servir l'Église, servir le Seigneur, servir l'humanité entière. C'est ça, la forme d'un service, c'est-à-dire que notre vie, elle soit d'abord service des autres, service de l'Église, service de Dieu, et non pas service de soi-même.
Quels sont les gestes et les paroles qui marquent une ordination diaconale? Comment ça va se passer demain?
Alors, il y a deux gestes essentiels, hein, si on peut dire, parce qu'il y a un certain nombre de rites, mais les deux gestes essentiels, c'est d'abord l'imposition des mains mm-hmm. par l'évêque. Donc, l'évêque en silence impose les mains. Et ça, c'est un geste très ancien qu'on voit déjà dans les Actes des Apôtres, qui est un geste de consécration pour une mission. Et puis ensuite, il y a une prière qu'on appelle prière consécratoire, parce que c'est une longue prière que l'évêque dit en demandant au Seigneur qu'il consacre dans l'Esprit Saint cet homme pour la mission qu'on lui confie. Et là, c'est la mission du diaconat.
On entend que un des acteurs principaux, c'est l'Esprit Saint.
C'est l'Esprit Saint, évidemment, parce que c'est en lui que tout se fait, que le cœur est consacré. Et puis c'est lui ensuite qui va guider cet homme. Et c'est à lui que cet homme remet sa vie. C'est à lui qui demande de conduire sa vie.
Qu'est-ce qui se passe entre l'ordination diaconale et l'ordination sacerdotale? Que va faire le frère François-Xavier entre les deux ordinations?
Donc d'abord, lui, il est aux études, donc il va continuer les études. Hein, il n'a pas complètement fini ses études pour devenir prêtre. Et ensuite, il va avoir un ministère de diacre. Hein, donc il va exercer son ministère. Dans notre séminaire à Toulouse, comme d'ailleurs dans beaucoup de séminaires de France, il y a ce qu'on appelle une année diaconale, c'est-à-dire une année où tous les diacres qui ont été ordonnés alternent entre une présence en paroisse et puis une relecture et puis des cours pour relire l'expérience pastorale. Parce que c'est pas parce que, par exemple, on a eu un cours sur l'Eucharistie en troisième ou quatrième année de séminaire qu'on sait préparer des enfants à la première communion. Et c'est cette différence, vous voyez, entre savoir les choses doctrinalement et puis ensuite accompagner les enfants qui préparent la première communion. Ça, c'est un savoir nouveau, si je puis dire. C'est une expérience nouvelle. Et donc, on va accompagner ces jeunes diacres qui vont devenir prêtres en relisant ces expériences pastorales et puis aussi en leur donnant un certain nombre d'enseignements la manière, par exemple, d'entrer en relation, la manière de s'occuper des enfants, des jeunes, la manière, par exemple, d'accompagner pour des obsèques. Donc
d'animer une paroisse aussi, ou d'être au service d'une paroisse aussi?
Oui, d'être au service d'une paroisse.
Combien de temps s'écoule entre les deux ordinations?
L'Église nous demande qu'il y ait au moins 6 mois pour faire une vraie expérience du ministère diaconal, mais ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Bon, là, pour le frère François Xavier, c'est à peu près une année.
Avec, entre-temps, donc, une mission plus particulière que vous lui confierez en tant qu'évêque de Tarbes-Lourdes.
Oui, alors je demande... Bon, il a déjà des missions, hein, parce qu'il est déjà dans sa paroisse, qui est la paroisse cathédrale, depuis longtemps, puisque le frère François Xavier fait partie d'une fraternité apostolique de Jérusalem. Et donc, il n'a pas fait son séminaire exactement comme les autres, parce qu'un jeune candidat qui est prêtre diocésain, il reste 5 jours au séminaire, et puis le week-end, 2 fois par mois, il revient en paroisse. Voilà. Donc il est plus au séminaire que dans le diocèse. Pour le frère François Xavier, comme il a choisi la vie commune, il fallait aussi entrer dans la vie commune et puis discerner s'il était fait pour la vie commune. Et donc on a choisi un parcours plus long, où il ne passait que la moitié du temps au séminaire à Toulouse, puis ensuite il revenait.
Donc, pour bénéficier de cette vie communautaire.
La vie communautaire, et du coup, il a aussi bénéficié. Bon, il est très engagé auprès des jeunes de la paroisse. Déjà, il a déjà une place. Moi, ce sur quoi j'ai insisté, c'est qu'il ait un ministère auprès des malades l'an prochain, parce que je crois qu'un. Vous savez, quand on entre dans le ministère, quand on est jeune, bon, souvent on nous donne les jeunes dont il faut s'occuper. On nous donne des ministères qui sont assez gratifiants, où on voit le résultat, où on a des bons retours. Bon. Et moi, je dis il ne faut pas oublier les pauvres aussi. Alors, le ministère auprès des pauvres. Alors, ça pourrait être auprès des SDF dans la rue. Ça pourrait
un
être
ministère plus caché, mais essentiel.
Ouais. Voilà. Et puis, alors, peut-être moins gratifiant. Peut-être on voit moins les résultats. Hein. Quand on va voir une personne malade, on ne sait pas trop parfois, même si elle n'a pas parlé, on se dit « est-ce que je sers à quelque chose ?» ou « j'y étais aujourd'hui, puis elle était trop fatiguée, elle m'a demandé de partir au bout de 5 minutes. » Bon, ministère auprès des pauvres, c'est aussi une sorte de regard qu'on pose pour ne pas passer à côté d'eux, parce qu'ils ne font pas de bruit. Et donc, on peut passer ses journées, quand on est prêtre aussi, dans des réunions, ou faire de la gestion... ou aller auprès des gens qui comprennent bien ce qu'on dit, qui nous aiment bien, qui sont en demande, qui ont soif. Or, il ne faut pas oublier les pauvres. Et donc, j'ai demandé au frère François Xavier qu'il ait ce ministère-là pour que, quand il sera prêtre, il se souvienne combien, au fond, c'est fécond. Et pour les personnes qu'il va rencontrer, et puis pour lui-même.
Le fait que frère François Xavier soit frère des fraternités apostoliques de Jérusalem, qu'est-ce que ça change ? Il sera au service du diocèse ?
Oui, parce que les statuts des fraternités, c'est un statut qui est diocésain. C'est-à-dire que ce sont des prêtres diocésains qui vivent en communauté. Alors ils ont pris une règle de vie, qui est la règle des frères de Jérusalem, qu'ils ont adaptée à la vie apostolique. Mais ça n'en sont pas moins des prêtres diocésains. Donc c'est pas comme des franciscains qui pourraient être déplacés au bout de 3 ans, 6 ans, aller à l'autre bout du monde. Non, ils sont vraiment incardinés. Incardinés, ça veut dire qu'ils font partie du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et donc, comme tous les prêtres de paroisse que l'on connaît, ils sont là, ils ont promis obéissance à l'évêque.
Donc on va le garder pour nous.
On va
très
le garder,
égoïstement.
Oui, ensuite, on a le droit de partager aussi. Un diocèse peut envoyer des prêtres ailleurs. Hein. Mais en tout cas, ce ne sont pas des religieux, hein, comme on a l'habitude d'en voir. C'est vraiment l'intuition du père André Cap quand il a fondé cette fraternité. C'est-à-dire les prêtres diocésains, des prêtres diocésains peuvent avoir un appel à vivre ensemble, à vivre en communauté. Et moi, je crois que ça a beaucoup de sens de dire on ne reste pas seul dans le presbytère, mais on se met ensemble. On prie ensemble, on prend les repas ensemble, il y a une vie fraternelle et joyeuse, et on a l'apostolat ensemble aussi.
Qu'est-ce que le peuple de Dieu, qu'est-ce que les fidèles du diocèse peuvent faire pour accompagner le frère François Xavier dans dans ce parcours, hein, parce qu'il est encore en parcours en vue de devenir prêtre. Comment on fait pour l'aider, pour le soutenir ?
Bien, vous avez raison de préciser cela, parce que je pense que cette ordination, on peut se dire « c'est un truc entre l'évêque et puis le candidat, l'évêque a un diacre de plus, il est content ». Non, c'est tout le peuple de Dieu, c'est toute l'Église qui reçoit cet homme qui est consacré pour la mission dans le diocèse et donc qui est au service aussi du diocèse. Et donc, c'est nous tous qui en devenons responsables. Et je crois qu'on peut l'accompagner, évidemment, par la prière, mais par tout simplement l'amitié, la sympathie, ne serait-ce qu'en lui demandant des nouvelles ou en répondant présent quand il nous demande si on peut l'aider hein, pour un service ou un autre. Je crois qu'il y a une fraternité à développer. Je crois qu'elle est assez belle. Il y a beaucoup de prêtres qui me disent leur joie d'être dans leur communauté, toute la joie qu'ils ont d'être avec les fidèles. Et je crois que ça, c'est vraiment à développer en se disant, bah oui, on est responsable aussi des prêtres qui sont ordonnés. Et ça suscitera aussi des vocations.
Voilà donc une ordination diaconale à suivre demain, jour de l'Ascension, à 15h30 en direct sur Radio Présence. Alors évidemment, les fidèles qui peuvent se rendre à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes, qu'ils y aillent, hein, qu'ils sont les bienvenus.
Tout le monde est invité et on sera très content de retrouver les auditeurs par la voix des ondes demain à la cathédrale. Et je les salue et je les remercie s'ils prennent le temps d'être là et d'être avec nous.
Le deuxième sujet que nous allons aborder aujourd'hui, Mgr Bouvet, c'est le déconfinement, l'allègement des restrictions, enfin, annoncé donc pour fin mai et puis courant juin. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour ne pas se disperser, voyez, pour ne pas s'égarer dans tous les sens quand enfin on va pouvoir souffler?
Bon, moi, je crois d'abord qu'il faut se laisser aller à la joie, hein, à la joie de se retrouver, à la joie de la fête, nous en avons besoin. Et si on n'était pas convaincu, je crois que cette pandémie nous a montré combien, en fait, nous avons besoin d'être en présentiel, comme on dit maintenant, c'est-à-dire face à face, en chair et en os, et de nous voir, de nous serrer la main, de pouvoir être là, en proximité, de nous asseoir les uns à côté des autres, de rire ensemble, de chanter ensemble, de parler et d'échanger. On voit bien que une vie confinée ne nous va pas, et on voit bien aussi qu'une vie par écran interposé ne nous convient pas. Alors ça nous rend des services, évidemment, et peut-être qu'il y aura des choses qui seront changées, parce que ça nous évitera des réunions avec des déplacements. Bon, ça, pourquoi pas. Mais on a besoin de se voir en réel, et je trouve que c'est un petit peu, je me disais, c'est un petit peu comme si on nous avait redonné le sens de l'incarnation. De l'incarnation et de la communion.
C'est la leçon à retenir, à tirer de ce confinement, de ces confinements successifs.
Oui, parce qu'on n'est pas que âme, on est corps. Et à travers le corps, et à travers notre corps, le corps de l'autre, il y a tout un tas d'échanges. Voilà. Et on aspire à être ensemble. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Alors, il y aura toujours des règles sanitaires à observer, mais j'ai vu que les terrasses de café étaient presque déjà remplies pour la reprise, justement, de cette possibilité qui nous est donnée. Puis ensuite, ça sera les restaurants en intérieur. Puis ça va être les voyages cet été, les rencontres. Moi, je pense qu'on a... On a vraiment intérêt à s'y donner. Je crois aussi que ça a été une autre leçon du confinement, c'est de voir combien on a besoin d'être en proximité par rapport aux personnes qui sont malades, personnes qui sont en fin de vie.
Oui.
Les premières décisions du gouvernement ont été très hygiénistes. Donc on a isolé les malades. Évidemment, ça partait d'une bonne intention, mais on s'est rendu compte que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en fin de vie, quelqu'un qui n'en peut plus, il a besoin de la visite de ses proches, de ses parents, de l'aumônier quand on est croyant. Et donc tout ça, on s'en est rendu compte au fur et à mesure de cette année, au deuxième et troisième confinement, ça a été autre chose. Moi, je veux rendre hommage en particulier aux prêtres, aux diacres, aux équipes d'aumônerie, d'hôpitaux, d'EHPAD, de cliniques et puis de prisons aussi qui ont été là et qui ont tout fait pour justement garder le lien, conserver le lien avec toutes ces personnes.
Alors maintenant qu'on va pouvoir sortir, on est tous appelés à cette mission d'aller à la rencontre de ceux qui ont été un peu plus malmenés par toutes ces règles sanitaires et ces confinements.
Oui, je crois que la première mission là, après la levée totale du confinement, ça va être de retourner voir ceux qui n'ont pas fréquenté nos communautés depuis un an. Il y en a beaucoup, ceux qui n'osent plus aller à la messe, qui ne veulent plus aller dans les réunions, qui ne veulent plus voir personne. Ben, je crois que c'est important de retourner, d'aller les voir, d'aller à leur rencontre, de demander de leurs nouvelles d'abord. et puis d'ouvrir les portes et les bras en disant voilà, n'hésitez pas à revenir, on est là. Je crois que il y a par rapport à la peur qu'il y a eu face au Covid, cette peur, elle est normale parce que vous voyez, ça dépend de son état de santé, ça dépend de son histoire, ça dépend de son environnement. Eh bien, non seulement il faut ouvrir les portes, mais je crois qu'il y a certainement des personnes à aller chercher pour remettre du rassemblement, de la rencontre, là où justement l'épidémie nous avait vraiment séparés les uns des autres.
Voilà, un nouvel élan à donner aux missions paroissiales notamment. Et là, exactement, on fait un petit clin d'œil à Sabine Bergère et à son équipe de missions dans les paroisses. Avant le pèlerinage diocésain qui aura lieu au mois d'octobre, donc c'est encore loin, est-ce qu'on aura l'occasion de se retrouver en diocèse? Parce qu'évidemment, on aspire à se retrouver en paroisse, mais on a besoin aussi de cette dimension diocésaine. Est-ce qu'on aura cette occasion d'ici le pèlé?
Oui, alors d'abord, l'occasion, on l'aura demain, pour l'ordination du frère François-Xavier à la cathédrale. Voilà, c'est vraiment un événement diocésain, donc venez, tous ceux qui peuvent, venez à la cathédrale. On aura aussi à la vigile de Pentecôte, donc la veille de la Pentecôte, le samedi avant la Pentecôte, à 18h30 à la cathédrale, la confirmation des adultes. Donc il y a 25 adultes qui seront confirmés, que je confirmerai. Confirmerai, c'est toujours un très très beau moment. C'est une vigile, c'est pas une messe, parce qu'on veut que les confirmés puissent aller à la messe le lendemain dans leur paroisse, la Pentecôte. Mais donc ça, c'est un événement diocésain aussi, tout le monde y est invité. Et puis on essaiera, si on peut, au mois de juin, après le 9 juin, une fois qu'on pourra vraiment se réunir avec un grand nombre, eh bien on essaiera d'organiser un moment simplement pour une messe, pour un pique-nique, tous ensemble à Tarbes, à la cathédrale aussi.
Voilà, pour célébrer les retrouvailles. Avant de nous quitter, Mgr Brouvet, un mot sur un autre frère François-Xavier, le frère François-Xavier Bustillo, qui a été nommé par le pape François évêque d'Ajaccio. C'est une grande joie aussi qu'on partage avec lui, avec le diocèse d'Ajaccio.
Oui, il a été nommé hier. Voilà, c'est un de mes proches collaborateurs, puisqu'il est au conseil épiscopal. Il a été responsable de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Et puis, il a été cérémoniaire. Il était gardien, donc supérieur du couvent de Lourdes. On l'a connu avant parce qu'il était provincial, disons, pour faire bref, de sa congrégation, des frères franciscains conventuels. Voilà, et donc, on l'a apprécié pour sa sagesse, pour sa capacité de discernement, pour sa bonne prédication aussi. On l'a apprécié tout simplement pour sa fraternité, pour sa simplicité. Et je ne doute pas qu'il sera un très bon évêque pour le peuple corse, pour les fidèles de l'Église en Corse, pour le diocèse d'Ajaccio. Et puis, voilà, moi je suis très content d'avoir un frère évêque en plus dans la conférence des évêques.
Merci beaucoup, Mgr Brouvet.
Merci, Anne-Rose.
On vous souhaite une belle fête de l'Ascension.
Merci, et puis alors, belle fête à tous les auditeurs aussi.